on va attaquer cette journée. Voilà, donc vous le savez évidemment, je ne suis pas biologiste, hein, c'est pour ça que je ne suis pas partie, non c'est pas vrai, mais donc je ne suis pas biologiste, mais ici c'est vraiment l'objectif, c'est voilà, moi dans mon expérience, voilà ce qui marche, voilà les valeurs intéressantes, je vous invite vraiment à noter vos questions, comme ça on peut essayer d'y répondre ensemble.
On n'a pas imprimé les slides parce qu'il y avait 80 slides, plus encore des slides que Véronique a sortis sur des études, donc ça va faire un gros paquet. Chez SimLab, on a aussi un engagement, c'est d'être un peu plus écolo. Donc on est en train d'harceler les médecins pour essayer de leur demander de ne plus leur envoyer de protocole papier. Donc j'ai envoyé la présentation à Patricia qui vous la diffusera par la suite et comme ça vous l'aurez en version électronique. Évidemment, Régine doit déjà.
Si, moi, je ne tiens pas mon micro comme ça, je pense que tu as dû faire des concerts dans ta vie.
Dans mes rêves.
Ça fait vraiment. Je peux faire comme ça aussi.
Ouais.
C'est amusant. Donc voilà, oui, il y avait des questions assez, j'aime ça, techniques, pointues sur les validations scientifiques, etc. Donc j'ai fait un petit peu de recherche bibliographique et j'ai trouvé certaines études sur certaines analyses. Donc je les ai mises dans un dossier et on vous enverra tout ça, comme ça vous aurez de la discussion aussi par la suite. Donc on va démarrer, c'est vrai que la formation est assez longue, donc un petit mot d'introduction d'abord. Pour vous positionner, vous situer un petit peu les analyses. Et puis donc, les grands domaines dont on va parler, ça va être les troubles intestinaux, le profil en acide gras, la vitamine B12 active, la fatigue surrénalienne, on va aborder l'un ou l'autre minéraux, hein, pas tous, on parlera de la thyroïde. TMAO, ça ira très vite parce que le laboratoire ne propose pas cette analyse, donc ça c'est fait. Et l'indexoma. Donc je plaisante, j'ai quand même mis une autre dia pour expliquer, mais vous le savez, hein, ce que c'est le TMAO et aussi dire un petit peu pourquoi peut-être cette analyse n'est pas proposée, je ne le savais pas, hein, donc j'ai dû me renseigner moi-même auprès du laboratoire. Alors, donc ici on va principalement parler, pas que, mais quand même principalement de biologie fonctionnelle. Et donc, l'idée, c'est que, vous le savez, tout aujourd'hui n'est pas, et c'est bien ça le problème, n'est pas validé de façon officielle. Hein, vous le savez aussi, prenons le HOMA par exemple. Le HOMA est quelque chose qui est publié 6000 fois, et pourtant qui n'est pas vraiment encore utilisé par l'ensemble des médecins en médecine classique généraliste. Et la plupart des analyses dont on va parler aujourd'hui, c'est comme ça. En plus, souvent, ces analyses, elles sont intéressantes, mais elles doivent être mises en rapport avec, bien sûr, avec les symptômes, avec la clinique, avec l'anamnèse que vous allez faire. C'est rarement des analyses pour lesquelles vous dites on-off. Hein. C'est pas du tout dichotomique. Hein. Il faut que bien comprendre qu'il y a toute une interprétation à avoir par rapport à ces analyses, et c'est sans doute la raison pour laquelle elles ne sont pas validées d'un point de vue scientifique. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont aucune valeur. Hein, on va parler notamment des IgG, vous savez, qui font l'objet de beaucoup de débats. Pourtant, il y a des médecins qui les utilisent, et même des allergologues. Donc, on voit bien qu'il y a toute une zone d'ombre. Il y a aussi la zone d'ombre entre la pathologie et la prévention et tout ce qui est prédictif. Hein, donc c'est ça qui rend aujourd'hui compliqué le fait de pouvoir dire par rapport à ces analyses, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est prouvé. Donc voilà, il faut quand même être relativement souple par rapport à ça. Bon, je vais m'en sortir. Alors oui, j'ai mon truc. Mais donc voilà, ces analyses, elles peuvent être considéré sur plusieurs niveaux. Hein, vous allez avoir la génétique, vous allez avoir l'aspect nutritionnel, l'aspect micronutritionnel, plus largement l'aspect fonctionnel, c'est ça qui commence à devenir vraiment intéressant, et puis même systémique et environnemental. Donc ces analyses doivent être regardées sur plusieurs niveaux. Alors, peut-être juste revenir à des tout basiques, mais qu'il est important de se rappeler, c'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, les analyses classiques
tendent à vous mettre dans des cases, hein, vous êtes dans les normes ou vous n'êtes pas dans les normes, et c'est bien un problème, parce que parfois les valeurs de référence sont extrêmement larges, vous le savez, une ferritine, si vous considérez que les normes c'est entre 20 et 250, vous imaginez bien que vous avez toutes les chances de vous y trouver, d'accord ? Ce qui ne signifie pas que c'est un niveau optimal pour vous. Et donc il n'y a pas aujourd'hui véritablement de choses officielles qui disent, voilà, les valeurs top, vraiment top, c'est ça. Hein, on va plutôt vous dire, vous êtes malade ou vous n'êtes pas malade, vous êtes dans les normes ou vous n'êtes pas dans les normes. Alors, les recommandations nutritionnelles, hein, qu'on n'appelle plus ANC, mais c'est pas grave, hein, qu'on appelle les repères nutritionnels, les RNP pour la population, eh bien, ces ANC, elles visent à couvrir 95% des besoins de la population. C'est comme ça qu'elles sont faites. C'est-à-dire qu'on regarde quel est le besoin moyen qu'on considère qui correspond donc à peu près à la moitié de la population, et puis on fait une déviation vers la droite de façon à ce que voilà, les recommandations couvrent 95% des besoins. Donc sachez que quand on vous dit les recommandations en zinc, c'est autant, c'est supposé correspondre aux besoins de 95% de la population, ce qui laisse quand même encore 5% en dehors des clous. Et donc, c'est évidemment important dans ces valeurs de comprendre qu'on est tous différents, qu'on absorbe de façon différente, on ne peut pas nous mettre tous dans la même case. Et donc, voilà, aujourd'hui, on considère que vous avez le niveau de carence qui correspond au risque d'apparition d'une pathologie, hein, une carence en vitamine C qui va augmenter le risque de scorbut, vous avez la pélagre, tout ce genre de choses-là. Puis vous avez la subcarence, les apports suboptimaux, déficience, et puis voilà, ce qui est supposé couvrir les recommandations. Et après, on a la fameuse limite de sécurité, c'est-à-dire si on tend vers des quantités plus importantes, eh bien on risque d'aller vers des manquements. Donc aujourd'hui, ces valeurs sont de mieux en mieux maîtrisées, sont de mieux en mieux connues. Hein, on sait par exemple que les premières études, la courbe était en L, parce que le but c'était vraiment de détecter la dose pour éviter un manque, éviter une pathologie, éviter les effets néfastes. Et puis, il y a eu d'autres études qui se sont ajoutées et on a compris qu'il y avait des valeurs, des doses qui pouvaient devenir délétères. Et donc la courbe a commencé à monter, à ressembler un petit peu plus à un U. Et dans un troisième temps, beaucoup plus récemment, il y a eu voilà, plein d'études qui ont permis vraiment d'intégrer toutes les interactions métaboliques entre les nutriments, etc. Et qui a resserré encore un petit peu cette courbe. Et donc maintenant, la fourchette de la dose minimum indispensable et de la dose maximum est en train quand même un petit peu mieux, je vais dire, de se dessiner. C'est aussi vrai donc, pour les analyses biologiques. On est en train quand même de mieux en mieux comprendre comment ça se passe. Donc, on a eu pas mal d'études aussi qui ont confronté différents pays. On sait que la diète méditerranéenne, c'est vraiment la référence. Ça a beaucoup aidé de se dire, tiens, ça, c'est des gens qui sont en bonne santé, qu'est-ce qu'ils mangent ? Prenons ça comme référence. Et donc, on est vraiment, avec le temps, en train de pouvoir, non seulement pour les apports nutritionnels, mais aussi pour les moyennes sanguines dans le sang, on est en train vraiment de pouvoir de mieux en mieux se faire une idée. Donc ça, c'était ma petite introduction pour bien comprendre que, voilà, il faut regarder ça avec souplesse, on n'est pas tous pareils, il n'y a pas en biologie fonctionnelle, aujourd'hui, elle est encore, par certains, relativement critiquée. Donc on n'a pas des valeurs de référence officielles. Hein, j'avais vu notamment dans les questions, tiens, tel nutriment, si on dépasse un petit peu, est-ce que c'est grave ? Sincèrement, je n'ai pas la réponse à cette question. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a beaucoup moins de risques de... qu'il y ait un risque justement d'excès lorsque la valeur est élevée à cause d'un apport nutritionnel. Ce qui pose problème, c'est quand il y a des excès apportés par des compléments alimentaires. Ça peut potentiellement poser problème puisqu'on sait qu'il y a le fameux effet matrice des aliments. Maintenant, on peut quand même en tirer certaines conclusions. Hein. Quelqu'un qui explose en bêta-carotène parce qu'il s'enfile un verre de 300 ml de jus de carotte tous les matins, on peut quand même s'interroger aussi sur la diversité de son alimentation. Okay, donc ça peut pas... Ça, on peut quand même en tirer certaines leçons. Hein. Donc vous savez bien que la variété, ça reste la base d'une bonne alimentation. Donc on va parler un petit peu maintenant des troubles intestinaux qui sont vraisemblablement l'une... Bon, après le poids, hein. Le poids c'est champion du monde numéro un, top number one, toute catégorie évidemment de motifs de consultation, vous le savez. Mais après le poids, vraisemblablement que les troubles digestifs arrive avec la fatigue peut-être en deuxième position dans les motifs de consultation. Donc ce qu'on va faire, on va passer en revue ensemble. C'est super, donc c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas. Donc on va parler de dysbiose, on va parler un tout petit peu de candidose, du family leaky gut, d'inflammation. On dira un mot puisque c'est la demande aussi sur la maladie cœliaque, les intolérances alimentaires. Et puis je ne parlerai pas beaucoup du syndrome de l'intestin irritable, du SIBO. On n'a pas aujourd'hui, vous le savez, d'examen vraiment biologique hein, qui puisse les mettre en avant. On a des pistes, mais plus dans la clinique. Et on va finalement se rendre compte que... je vais refaire une tentative. Pas donc, hein. Donc... Je voudrais bien, je ne sais pas pourquoi ça marche sur mon ordi. Voilà, ça marche très bien. Tu étais moi, ça marche là. Magnifique. Donc ici, ça ne fonctionne pas. Normalement, c'est censé zoomer sur ce que je veux vous montrer, mais ça ne fonctionne pas. Donc, on va parler finalement de quatre acteurs pour lesquels aujourd'hui on a des analyses et qui sont associés à ces pathologies digestives pour la plupart. Et on va voir comment on peut les évaluer. Donc vous le savez, le microbiote, alors aujourd'hui, le microbiote, il est au centre, bien sûr, de beaucoup, beaucoup de problèmes de santé. On rêverait, évidemment, d'avoir des analyses absolument prodigieuses qui puissent nous dire d'un coup d'œil, ah voilà, c'est ça le problème et c'est ça la solution. Vous le savez, aujourd'hui, ça n'existe pas. On a des choses très intéressantes qu'on peut faire, mais on n'en est qu'au balbutiement hein, de la connaissance du microbiote. Et donc, on va voir comment, de la meilleure façon possible, on peut l'évaluer. La difficulté aujourd'hui, ça va être de savoir genre, qu'est-ce qu'on en fait. Parce que vous pouvez, tout le monde a intérêt globalement à manger plus de prébiotiques, on le sait. Ce qui est assez sympa, c'est qu'on commence maintenant à comprendre quand même quel type de fibres. Mais donc aujourd'hui, on n'est pas du tout là pour parler des solutions, hein, d'accord ? On est là pour parler vraiment des analyses, donc je ne vais pas du tout rentrer dans ce type d'explication, mais juste préciser. Donc voilà, l'intérêt des analyses, c'est de pouvoir agir après. Faire des analyses chez un patient, juste pour lui annoncer qu'il y a quelque chose qu'il a, mais qu'on ne peut rien faire derrière, personnellement, moi je ne suis pas pour, d'abord ce n'est pas notre rôle, hein, mais donc aujourd'hui, vous savez, il y a toute une série d'analyses génétiques, qu'on peut faire, bah, si on peut mettre en avant une hypersensibilité qui fait que le patient va modifier son mode de vie, c'est très bien. Si c'est juste pour lui dire, vous savez, vous avez une chance sur deux de vous choper un cancer du cerveau, bof quoi. Donc l'idée ici, il faut bien garder ça en tête, c'est toujours de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire après de cette analyse, si vous savez que c'est des analyses qui ont quand même un certain coût, hein, pour certaines. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on en fait. Donc... aujourd'hui, analyser le microbiote en détail et en travers, ça peut être intéressant, mais voilà, si vous avez un patient et vous voyez qu'il manque d'une souche que de toute façon on ne trouve pas en termes de probiotiques, c'est quand même un petit peu compliqué et souvent ça coûte très cher. Donc l'idée c'est d'être un petit peu plus généraliste, en tout cas pour l'instant. Donc microbiote, l'idée c'est évidemment d'évaluer le premier critère de qualité du microbiote, c'est quoi, de façon générale ? La diversité, hein, clairement. Donc ça, c'est quelque chose avec laquelle tout le monde est d'accord. Plus vous allez avoir un microbiote diversifié, et plus vous avez une chance que la personne soit dans un état de santé optimum. Un nouvel acteur, le mucus.
Hein, on en parle de plus en plus, on l'avait un petit peu mis de côté. Là aussi, on sait aujourd'hui que l'épaisseur du mucus est vraiment un critère de santé. Alors ça ne se mesure pas, on ne sort pas sa petite latte pour mesurer évidemment l'épaisseur, mais voilà, on sait que c'est très important d'avoir vraiment une couche de mucus épaisse. Il y a une part de génétique, hein, on s'en cache pas, hein, y a des gens qui, génétiquement, vont faire manquer de certaines choses qui font qu'ils ont une bonne épaisseur de mucus. Mais on sait, par exemple, qu'une personne qui a beaucoup de firmicutes, eh bien, elle a probablement plus de chances de faire une bonne couche de mucus. Okay, donc il y a toute une catégorie de souches qui sont capables de booster le butyrate, et le butyrate, il va notamment aussi favoriser les cellules qui fabriquent le mucus, donc les mucines, hein, donc les cellules gobelettes par exemple. Donc aujourd'hui, on est vraiment en train de découvrir des trucs incroyables au niveau de l'intestin qui vont nous permettre vraiment d'aller de l'avant. Ici, notamment pour l'épaisseur du mucus, on va évaluer la qualité ou la quantité des immunoglobulines A sécrétoires qui contribuent également à une bonne immunité, bien entendu. L'épithélium, on verra les valeurs qu'on peut regarder ensemble pour évaluer sa qualité et l'immunité, ben, je vous ai déjà parlé des immunoglobulines notamment. Donc voilà, ça c'est vraiment les quatre acteurs aujourd'hui de l'écosystème intestinal avec lesquels on va pouvoir travailler. Et donc l'objectif c'est d'évaluer leur qualité. Alors, dans les analyses chez SYNLAB, ce qui est proposé c'est l'analyse du métabolome. Donc juste peut-être préciser ce qu'est le métabolome, c'est très simple, c'est l'ensemble des métabolites. Okay. Donc un métabolite, hein, c'est soit une molécule qui est issue d'un métabolisme intermédiaire, soit final, okay, qui peut venir de n'importe quel macronutriment ou même micronutriment. Et donc on peut évaluer aujourd'hui la présence de ces métabolites, donc la qualité du métabolome. C'est très très large, hein, donc ceci n'est pas du tout exhaustif, ça c'est ce qui est proposé par le laboratoire. Mais donc on prélève des échantillons, ça peut être les selles, ça peut être les urines. On va les extraire, les purifier, identifier ces métabolites, les analyser, et puis on va pouvoir, grâce à ça, vraiment faire un diagnostic, un pronostic et envisager éventuellement une thérapeutique. Donc, première chose, le laboratoire propose donc une analyse qui s'appelle le métabolome. Donc moi, je n'ai pas parlé des prix et tout ça. Là, tu as pris le geste. Elian, si tu veux peut-être chaque fois intervenir, tu me dis, moi, je ne connais pas nécessairement tous les prix, parce que vous savez où j'en suis.
J'en parlerai.
OK. Voilà, donc je ne m'occupe pas de ça, je ne les connais pas, parce qu'en plus, il y a des différences d'un pays à l'autre. Donc, voilà. Donc, métabolome. Ça, c'est une des parties. Et puis, le fameux MOU, hein, les métabolites organiques urinaires. Excusez-moi, j'ai un truc dans la bouche qui me chatouille. Allez, allez. Donc, vous avez tous et toutes, je pense, entendu. Donc, non. Mais ça me chatouille.
Un petit bon quoi. C'était la bonne excuse. Attendez.
Merci beaucoup. Bon. Donc, nos acides gras à courte chaîne, vous en avez, j'espère, tous et toutes entendu parler. Aujourd'hui, c'est vraiment une analyse très très intéressante que l'on peut proposer. Notamment le butyrate, on connaît. Alors, je pense. D'ailleurs, je redonnerai. Non, je ne l'ai pas mis ici, je l'ai mis plus loin. Je vous ai mis. Ouh là là. Je ne sais pas vraiment là. Voilà. Donc, je vous ai rajouté d'ailleurs, fais-moi penser, j'ai hier tard encore ajouté des dias. Donc, vous aurez la version finale. Donc, je vous ai mis une petite dia qui liste les effets incroyables du butyrate. Alors, le but, c'est, comme j'ai dit, pas rentrer dans mille détails, mais. On sait notamment que le butyrate protège du cancer du côlon, qu'il a un effet trophique sur la muqueuse, qu'il a un effet anti-inflammatoire. Enfin, c'est absolument incroyable les effets du butyrate.
Il a un effet sur la phosphatase alcaline intestinale qui est anti-inflammatoire. Il a un effet sur les jonctions serrées. On va en dire deux, trois mots, mais c'est vraiment très, très intéressant de pouvoir dire à votre patient « Ouh là là, mais votre butyrate, il est dans les choux. » Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire monter, notamment grâce à une alimentation riche en prébiotiques. Donc, comme je disais, le but, c'est de pouvoir agir derrière. Donc, butyrate, propionate, acétate, donc ces acides gras à courte chaîne, on évalue leur présence dans les selles. Simple échantillon de sel qui est à remettre. Après, on a les acides gras branchés, isobutyrate, isovalérate. Donc, ce sont les isomères. Donc, globalement, on va englober tout ça dans les résultats. On ne fait pas de différence entre le butyrate et véritablement l'isobutyrate. Vous avez les dérivés lactiques, hein, notamment le délactate. Donc, je les ai listés un petit peu comme ça. Mais donc, le délactate, il peut aussi être ou trop bas ou trop élevé. Hein, on a des messages à en tirer dans les deux sens, hein, notamment le délactate, il est vraiment le marqueur d'une hyperfermentation, d'accord ? Donc on sait que le délactate, par exemple en cas de SIBO, ça peut être un marqueur intéressant. Hein, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ce qu'est le SIBO. Pour qui c'est pas clair le SIBO ? C'est clair le SIBO. Ah, c'est pas clair le SIBO. Donc le SIBO, c'est juste Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Donc c'est une multiplication anormale de la quantité de bactéries dans la partie haute de l'intestin grêle. Hein, normalement, la majorité de nos bactéries, c'est plutôt dans le côlon. Et donc là, à cause de constipation, des IPP, de toute une série de choses, on a des bactéries qui se développent au niveau de l'intestin grêle. Donc, eh bien, notamment là, le délactate, dans ces situations, pourrait être plus élevé. On a les fameux dérivés phénoliers, hein, le phénol, le paracrésol, les indoles. On peut aussi, c'est très intéressant, avoir une idée des dérivés alcooliques comme l'éthanol, et ça c'est notamment intéressant par rapport au NASH. Okay, donc vous savez qu'il y a aujourd'hui toute une série de patients, de plus en plus, c'est assez dramatique, qui ont une stéatose hépatique non alcoolique, c'est-à-dire ils ne picolent pas, et ils ont voilà, des résultats des analyses hépatiques qui sont catastrophiques. Eh bien ça peut être intéressant également d'avoir une idée de la quantité d'éthanol fabriqué, et donc ce sont certaines bactéries qui fabriquent de l'éthanol. Donc vous imaginez, il y a votre médecin qui vous regarde de travers en disant ça vient picoler sec le soir, et en fait ça ne boit pas une goutte d'alcool. Okay, donc ça plus l'insulinorésistance, c'est vraiment les deux causes majeures aujourd'hui de développement de NASH, et ça touche quand même une quantité de plus en plus importante de la population. Alors, vous avez les dérivés glucidiques, arabinitol, arabinose, tartarate, que l'on utilise principalement pour évaluer la présence ou pas d'une candidose, notamment. Okay. Donc, principalement, donc, l'arabinitol. Attention, il y a des formes D, des formes L. C'est vrai qu'il faut quand même, dans certains cas, exclure l'hyperconsommation de jus de pomme, de pommes, de poire, parce que ça peut élever parfois certains de ces métabolites. Donc, toujours quand vous avez un patient qui a des résultats anormaux, demandez-lui si c'est un grand consommateur de jus de pomme, de jus de poire, parce que ça peut avoir un effet aussi au niveau des résultats. Et puis vous avez les dérivés des polyphénols, notamment l'ipurate, qui est un métabolite du benzoate, hein, et qui est intéressant d'avoir élevé, parce que l'ipurate élevé, ça montre une consommation plutôt importante de fruits, de légumes, de céréales complètes. Donc attention, parce que évidemment, parfois, l'avantage, c'est d'avoir plutôt des valeurs basses, et parfois, c'est plutôt d'avoir des valeurs hautes. Donc ça, c'est à voir, évidemment, au cas par cas. Mais vous avez toujours, et c'est ça qui est très bien, bien sûr, quand vous recevez les résultats, vous avez un texte qui vous explique, ça, c'est haut chez le patient, attention à ci, attention. Donc vous êtes quand même toujours accompagné, hein, au niveau des résultats. Vous avez toujours des fourchettes avec les valeurs que le laboratoire considère comme optimales. Et puis, bien entendu, à vous, avec la clinique, de faire des liens. Donc peut-être juste, voilà, j'avais remis ici l'intérêt, hein, moi j'aime bien toujours montrer donc, l'intérêt des analyses. Je pense que c'était d'ailleurs aussi l'objectif, c'était de pouvoir montrer peut-être à des médecins avec lesquels vous travaillez que ce sont des choses qui sont validées, qui sont prouvées, que ce n'est pas des élucubrations.
Et donc voilà, j'avais ici ce papier de 2017 qui montre bien l'impact de tous ces composants nutritionnels de notre assiette qui vont donc, grâce à notre microbiote, hein, et on parle des acides aminés, des fibres, des vitamines, hein, vous savez aujourd'hui que finalement tous ces composés sont potentiellement des prébiotiques. C'est complètement passé le temps où on disait les prébiotiques c'est des fibres, hein. Les, aujourd'hui des oméga 3 c'est des prébiotiques, le thé vert, l'épigallocatéchine galate du thé vert c'est un prébiotique, la curcumine est un prébiotique, tout ce qui potentiellement est métabolisé par le microbiote et donc fait des métabolites qui sont bons pour l'homme sont considérés comme des prébiotiques, ok. Donc cette notion de prébiotique a été vraiment largement agrandie. Et donc ces métabolites peuvent évidemment avoir des effets délétères. À ce moment-là, ce n'est plus des prébiotiques, hein, vous l'aurez bien compris, mais peuvent avoir aussi des effets santé. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces composants, hein, vous savez, à l'époque, enfin à l'époque encore maintenant malheureusement, mais dans les études de diététique notamment, on vous parle de l'aliment, du nombre de calories qu'il contient, de sa richesse éventuellement en calcium ou en fibres, mais on ne voyait pas, enfin du temps où moi j'ai étudié, on n'abordait pas du tout l'impact métabolique de ces métabolites. D'ailleurs, on ne parlait pas du microbiote encore, donc de toute façon, on n'en avait aucune idée. Mais donc, on voit bien aujourd'hui que ces métabolites, eh bien, oui, ils influencent le risque de santé, notamment en termes de cancer, maladies cardiovasculaires, diabète, Parkinson, etc. Et ce n'est pas exhaustif, bien sûr. Alors, d'un point de vue pratique, donc, globalement, en général, vous avez... Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais observé un patient... ou en tout cas vraiment très rarement, où vous avez l'acétate super haut, le butyrate super bas. Donc en général, c'est plutôt une analyse à regarder de façon globale. Et donc vous pouvez avoir des cas où ces métabolites ici, où le métabolome est plutôt bas. Et évidemment, la leçon à en tirer, ça va être que c'est des petits consommateurs de fibres, de végétaux, de prébiotiques, etc. Donc ça, c'est évidemment un aspect des choses. Et puis, vous pouvez vous retrouver... Bon, alors, il y a des doublons, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez... C'est exactement la même chose, mais avec quelqu'un qui a que des plus, donc qui est plutôt en excès. Alors là, vous avez deux options. Soit c'est un patient qui va super bien, auquel cas, la chance est grande que vous ne lui ayez pas fait faire un métabolo. OK, en général, si vous avez un patient qui pète la forme, vous lui dites pas, tiens, on fera bien un petit métabolo. Donc voilà, donc, dans ces cas-là, sachez que c'est possible, hein, vous pouvez avoir quelqu'un qui mange énormément de fibres, qui les tolère très bien, beaucoup de polyphénols, de prébiotiques, etc., et qui va se retrouver évidemment avec un très bon bilan en point de vue métabolo. Mais quand vous avez quelqu'un qui présente un trouble fonctionnel intestinal et qui a des valeurs comme ça très élevées, eh bien, vous pouvez bien entendu en tirer des conclusions aussi, c'est-à-dire notamment de l'hyperfermentation. Ça peut être quelqu'un qui est constipé, donc on va rejoindre ça, j'ai envie de dire, avec la clinique. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a un syndrome de l'intestin irritable, notamment, et qui hyperfermente. Okay, donc là, vous avez une confirmation de la problématique. Donc ça, c'est vraiment des choses très intéressantes. Et bien entendu, ben, quand le butyrate est très bas, comme ici, hein, ben on sait, c'est, à terme, c'est des patients qui ont un risque augmenté de cancer du côlon et de troubles inflammatoires, etc. Donc voilà, on voit, alors après on va en parler, mais on va ajouter à ça, bien entendu, le côté inflammatoire, notamment ici. Vous pouvez avoir des patients chez qui il n'y a pas d'inflammation, et ici vous avez clairement, au niveau des selles, on va les voir un par un, des marqueurs qui signent plutôt une inflammation. Donc voilà, dans ce cas-ci, on a des acides gras à courte chaîne qui sont trop bas, et donc clairement, ça signe quoi? De façon générale, ça signe un manque de diversité du microbiote. Donc ça, c'est vraiment tout de suite, c'est ce que vous devez vous dire. Premier réflexe, c'est manque de diversité quand on a un patient qui présente un métabolome dans ce cas. Et alors, on a ici, comme je l'ai dit, donc une réaction inflammatoire locale qui montre évidemment les symptômes. Donc, on va les voir. Bêta défensine, En général, ils sont positifs avant la calprotectine. La calprotectine, c'est encore un niveau au-dessus, avec des lésions, etc., au niveau de l'inflammation. Alors, je vous ai dit que je vous dirais un petit mot sur le butyrate. Je pense que j'en parle encore plus loin. Mais... Donc, le butyrate, cet acide gras à courte chaîne, a été vraiment énormément étudié. Il provient, alors on dit toujours évidemment qu'il provient de la consommation de fibres. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a du butyrate aussi dans le fromage, dans le beurre. Hein, on a l'acide butyrique aussi. Hein, donc on peut le manger de façon directe et on peut le fabriquer, bien entendu, à partir des fibres que l'on mange. Donc ce butyrate, il joue un rôle trophique, donc un rôle énergétique sur nos entérocytes. Il est également... intéressant parce qu'il inhibe une molécule qui s'appelle la HDAC, qui est en fait l'histone déacétylase. Et donc c'est ce qui lui permet d'avoir une meilleure survie cellulaire. Donc il est vraiment très intéressant et important pour nos jonctions serrées. Et alors ce butyrate, il joue aussi un rôle en inhibant cette histone déacétylase, il permet la transformation de lymphocytes T naïfs en lymphocytes T régulateurs. Et donc, il permet un meilleur maintien de l'immunité. Donc, vous voyez à quel point le butyrate est important. Et donc, si on peut l'évaluer, qu'on sait qu'il est bas et qu'on sait comment faire après pour le corriger, eh bien, on a vraiment des outils très précieux pour améliorer la santé de nos patients. Donc voilà, tout ça donc, permet globalement meilleure immunité, meilleure vie cellulaire, meilleure barrière intestinale, meilleure tolérance par rapport aussi à notre microbiote. Donc ce butyrate, il est vraiment très très important. Et bien entendu, quand on en mange moins, on a bien compris que du coup, comme vous le voyez ici, on a un problème au niveau de nos jonctions serrées. On a des entérocytes qui sont en moins bonne santé. On a un système immunitaire qui est beaucoup trop réactif et qui va devenir donc intolérant à notre microbiote, d'où des problèmes inflammatoires, etc. Donc, très important d'analyser ce métabolome. Alors, les IgA sécrétoires, ils sont également très importants. Donc, ils vont permettre notamment de se faire une idée quand même sur la qualité du mucus, hein. Et donc, ce sont des immunoglobulines extrêmement présentes dans notre immunité, parce qu'elles représentent 15%, hein, c'est énorme. Ce qui les influence aussi, c'est le fait d'avoir été allaité ou pas. Donc, ça, c'est quand même aussi un élément intéressant. Donc, ce sont vraiment des immunoglobulines très, très importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens chez qui les immunoglobulines A sécrétoires sont basses et qui pourtant n'ont pas de symptômes. Donc, ça ne marque pas toujours non plus des symptômes. Donc, ce sont des anticorps importants pour tout ce qui est fonction immunitaire de nos muqueuses. Et donc là aussi, on sait notamment que la vitamine D peut favoriser aussi un petit peu leur sécrétion. Alors, bêta-défensine, c'est vraiment un marqueur d'inflammation intestinale. Et donc là, c'est pas de bas grade, hein, c'est souvent quand même assez déjà symptomatique. On constate vraiment qu'il y a des symptômes. Et comme je l'ai dit, la calprotectine, c'est encore un niveau au-dessus. Donc là, on a vraiment des lésions, hein, des lésions et de l'inflammation chez ces patients-là. Donc ça, c'est aussi une bonne façon de les identifier. Donc pour le critère inflammation intestinale, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? La bêta-défensine, premier niveau. Donc, inflammation physiologique, avec une production ici. Alors la phosphatase alcaline intestinale, elle est protectrice, hein, c'est une enzyme anti-inflammatoire, petite parenthèse, qui est inhibée par l'aspartame, hein, ce qui explique entre autres le problème de l'aspartame sur la prise de poids, hein, puisque si la phosphatase alcaline intestinale, elle détoxifie les LPS, hein, donc si vous en manquez, ben, vous avez plus de LPS, hein, donc ça, c'est pour ça que ça favorise. Qui a un lien entre aspartame et prise de poids. Je referme la parenthèse. Donc, l'inflammation physiologique, on a une production de cette phosphatase normalement pour essayer de combattre cette inflammation. Et on va avoir, dans ces cas-là, des bêta-défensines et calprotectines qui sont assez normales. Okay, parce qu'on a des défenses qui sont capables, déjà ici, cette phosphatase, elle est capable d'arrêter l'inflammation. Après, quand on a un trouble fonctionnel intestinal avec inflammation de bas grade, on va avoir les bêta-défensines qui vont s'élever, mais la calprotectine qui reste dans des valeurs normales. Okay. Donc après, parfois c'est de bas grade, parfois il y a déjà des symptômes, ça va dépendre évidemment de la sensibilité, vous le savez, notamment dans le syndrome de l'intestin irritable, parfois ils n'ont pas plus d'inflammation, ils ont juste une plus grande sensibilité. C'est aussi le système nerveux entérique parfois qui est fragilisé. Et puis on a, troisième niveau, le trouble lésionnel intestinal avec élévation de la calprotectine. Et là, on a déjà évidemment beaucoup plus de symptômes puisqu'on va retrouver des lésions. Okay, donc ça, c'est vraiment pour évaluer l'inflammation intestinale, bêta-défensine, calprotectine. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi utiliser la quinurénine, le rapport quinurénine sur tryptophane, hein, qui peut aussi quand même être très intéressant. Et notamment dans tout ce qui est dépression, etc., qui peut expliquer un manque de sérotonine. Et alors, j'ai noté la CRP ultrasensible, parce que je pense que c'est une analyse qui devrait être faite de façon systématique, mais c'est évidemment pas du tout précis par rapport à la santé intestinale. Hein. La CRP ultrasensible, c'est inflammation silencieuse de façon générale dans le corps. Okay, donc, c'est pas du tout spécifique à l'intestin, mais c'est, je pense, quand même une analyse qui doit être faite. Je pense que d'ailleurs elle était reprise, je l'ai placée là, comme ça c'était plus facile. Je pense que c'est des choses que vous faites peut-être déjà. Vous savez qu'elle doit être inférieure à 1, cette CRP ultrasensible, qu'elle est, comme son nom l'indique, plus sensible que la CRP, qui est un marqueur d'inflammation parlante et qui est demandé dans 99% des cas par les médecins, alors que l'ultrasensible, elle est beaucoup plus spécifique et donc elle apparaît bien avant la CRP. Donc vous ne pouvez pas, avec une CRP, mettre en avant une inflammation silencieuse ou de bas grade, ce n'est pas possible. Alors aujourd'hui, pour diagnostiquer une candidose, il n'y a pas de bilan, comme je l'ai dit en introduction, qui peut vous dire à 100% c'est sûr, il y a une candidose. Voilà, c'est vraiment, c'est d'abord la clinique, c'est d'abord votre intuition, hein, j'ai envie de dire, que vous pouvez confirmer avec le mou, et notamment l'intérêt du D-arabinitol, mais l'arabinitol et le tartarate sont les trois métabolites qui sont intéressants. De toute façon, en général, les trois sont dosés de toute façon. Mais donc, un des plus intéressants et des plus importants, c'est le fameux D-arabinitol. Alors, personnellement, moi, l'UGG candidat, je ne le fais pas. Je trouve qu'il a vraiment une faible spécificité et je trouve qu'il n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Donc, vas-y. La parole est à la défense.
Non, je ne me défends pas du tout. J'entends et je comprends. Moi, j'ai demandé à Olivier Coudron, peut-être qu'il y en a certains qui le connaissent ici. Pour lui, au niveau de la candidose, la meilleure analyse, c'est une analyse de sel. On doit simplement s'amuser à compter les formes micellaires et sporulées des candidats dans les selles et en fonction de ça, voir ce qu'on peut proposer comme tout.
Mais je sais qu'Olivier n'est pas un grand fan du mou, et pourtant j'ai quand même trouvé dans la littérature des choses. Alors, après, il s'est un peu adouci quand même par rapport à ça. Le mou, dans sa globalité, il n'était pas grand fan par rapport à la candidose quand même. Voilà, donc la littérature montre quand même des liens, mais encore une fois, il faut être juste, se dire, tiens, ça confirme mon intuition, et pas prendre les choses au pied de la lettre. Si vous avez un patient qui est un peu dans l'orange, voilà, vous ne savez pas ce qu'il a mangé la veille, ça reste quand même que des métabolites de glucides, hein. Donc commencez pas à des traitements de fou avec quelqu'un qui est un tout petit peu... Voilà. Donc les symptômes, ça reste vraiment quand même l'élément le plus intéressant, mais je trouve quand même que ça permet de confirmer un diagnostic. Donc on a vu l'inflammation, on a parlé du métabolome. Alors évidemment, on peut évaluer aujourd'hui aussi la qualité, la perméabilité de l'intestin, donc leaky gut syndrome, qu'on va évaluer avec la LBP, la zonuline. Donc je vous ai mis un petit schéma. Alors je voudrais juste insister sur une chose, c'est que parfois dans certains schémas, vous voyez le mot zo. Je ne sais pas si vous voyez dans les protéines des jonctions serrées, Le zoo de ces schémas, ce n'est pas la zonuline. D'accord ? La zonuline, c'est une protéine qui est plutôt circulante et qui marque vraiment, qui va venir, donc elle est circulante, c'est elle qui va venir se fixer pour provoquer de l'hyperperméabilité. Quand vous voyez zoo dans les schémas, donc la zonuline n'est pas une protéine des jonctions serrées. Okay, donc c'est la zoo occludens, en fait, la zoo que vous voyez dans les autres graphiques. Donc souvent, on confond un petit peu parce que les protéines des jonctions serrées, c'est claudine, occludine. Okay, donc ça, c'est les vraies protéines des jonctions serrées. Et donc, en fait, vous avez la zonuline qui est une protéine circulante qui vient se fixer sur ces protéines des jonctions serrées et favoriser donc leur dislocation, hein, et la rupture de ces protéines. Donc la zonuline, c'est un marqueur évidemment très intéressant pour évaluer la qualité de la perméabilité intestinale. Et puis vous avez la LBP. La LBP, c'est la protéine qui porte les LPS. Donc c'est la LPS binding protein. Okay, donc les lipopolysaccharides sont des morceaux de membrane de bactéries gramme moins. Okay, et donc quand vous avez une dysbiose, plutôt en faveur de ces grammes moins, ce qui, là aussi, souvent il y a des raccourcis, hein, on se dit, ah donc les grammes moins c'est pas bien, ben non, il y a plein de grammes moins qui sont excellentes pour la santé, hein, notamment Akkermansia muciniculata, c'est une bactérie gramme moins. Okay, donc c'est pas gramme moins égal mauvais, okay, c'est juste que c'est surtout au niveau de certaines catégories de gramme moins qu'on va retrouver ces LPS. Et donc quand on a une dysbiose notamment, eh bien, ces LPS, vous savez, peuvent passer la barrière intestinale et elles sont portées, ces LPS par une protéine qui s'appelle la LBP. Et donc dans le sang, on peut doser cette LBP. Donc la LBP est plutôt un marqueur d'endotoxémie. D'accord ? Donc je les ai mises ensemble ici, mais il y a quand même une nuance entre ces deux marqueurs. Hein, donc c'est pas, on se dit, bon, je fais l'un ou l'autre, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Parce que vous pouvez avoir une LBP élevée et une zonuline normale. Okay, donc vous pouvez avoir eu un gros repas bien dégueu, hein, donc la bonne raclette, là, c'est bientôt la saison, et 4 heures après, vous allez avoir une LBP qui va monter, mais vos jonctions serrées, après, elles se remettent très très bien. Okay, donc les deux ne sont pas nécessairement liés. Hein, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde qu'il y a vraiment une différence. Et voilà, la LBP, c'est quand il y a endotoxémie. Donc il y a eu passage de LPS de façon trop importante dans l'organisme. Okay, mais ce n'est pas pour ça qu'on a un problème d'hyperperméabilité intestinale. Alors, je vais regarder ici ce que je vous ai mis. Donc c'est de nouveau un exemple. Hein. Voilà, ici, on a un microbiote qui a l'air tout à fait correct quand on regarde le métabolome, mais ça n'empêche pas. Donc ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'il ne faut pas se dire « je fais l'un et pas le reste parce que tout est lié, c'est pareil ». Non, hein, en fonction des stades notamment, en fonction des patients, on peut avoir des situations qui semblent tout à fait normales. Et par contre, on voit bien ici qu'il y a de l'hyperperméabilité intestinale et qu'on a de l'inflammation. Très clairement, la calprotectine et l'état défensif sont élevés. Les IgA sécrétoires, elles sont normales, mais attention, peut-être qu'elles ont été explosées à un moment donné et que le corps, il est juste plus capable d'en fabriquer en quantité. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème immunitaire. C'est là que je vous disais, attention, il faut interpréter ça en fonction de nos patients. C'est vrai aussi pour la 8-OHDG, marqueur de stress oxydant au niveau de l'ADN. Vous pouvez avoir une 8-OHDG qui semble normale, voire basse, parce que les défenses antioxydantes sont complètement dépassées. D'accord ? Donc ici, c'est toujours ce que je disais, à prendre quand même avec un petit peu de subtilité, c'est que ici, les IgA sécrétoires, elles sont peut-être juste normales parce que l'immunité n'est pas encore affectée, ou elles sont normales parce que le corps est plus capable de fabriquer, elles ont peut-être été très très élevées à un moment donné, et qu'après, ce n'est plus possible. Donc voilà, taux de zonuline élevé, donc clairement hyperperméabilité intestinale et problèmes inflammatoires qui vont être liés à ça, bien entendu. Donc je ne sais pas si c'est clair pour vous, au niveau, on peut peut-être poser des questions étape par étape.
Ouais.
Donc les analyses dont Véronique vient de parler, LVP, zonuline, sont essentiellement faites sur une prise de sang. Alors il y a encore un examen chez nous pour l'hyperperméabilité intestinale qui se fait de manière urinaire. Mais je vais dire qu'on en parle de moins en moins parce que c'est un test qui est assez contraignant. C'est-à-dire que le patient doit avaler une solution sucrée et après on récolte les urines pendant 5 heures. Le problème, c'est que les deux premières heures, le patient doit être à jeun, il ne peut rien boire. Et les 3 heures qui suivent, le patient peut juste boire de l'eau. Donc c'est assez contraignant et c'est beaucoup plus intéressant et c'est beaucoup plus précis avec la LVP et la zonuline au niveau sanguin.
Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces analyses déjà dont je viens de vous parler?
Peut-être par rapport au goût, quand on en avait discuté, tu ne mettais pas le mou spécialement en avant par rapport au test. Donc, si tu peux bien commenter par rapport à ça.
Non, ce qu'il y a, c'est qu'avant, le mou, il était pris dans sa globalité. Donc, il y a quand même une grande évolution par rapport à ça. C'est-à-dire que vous aviez le module fongique, le module bactérien. Et si le module bactérien était dans le rouge, on disait « Oh là là, dysbiose ». Or, on sait aujourd'hui que, par exemple, l'ipurate, c'est plutôt bien d'être élevé. Donc, il y a beaucoup de nuances qui ont été apportées. Et aujourd'hui, on va faire uniquement arabinose, arabinitol, tartarate séparés. Et on va doser l'ipurate tout seul, par exemple. Ou on va doser le paracrésol. Donc aujourd'hui, on connaît mieux les différents métabolites. Et d'ailleurs, ils sont séparés dans les demandes. C'est plus un mou complet. Voilà, donc c'est pour ça que je les ai aussi présentés de façon un petit peu séparée. Mais c'est vrai que, voilà, il y a des bilans qui sont lancés, et puis après, on se rend compte, on apprend, et pas, c'est pas moi, hein, mais le laboratoire va se rendre compte qu'il y a des choses qui évoluent.
C'est essentiellement par rapport à l'évolution des connaissances, et qu'avant, on proposait cette analyse, et on en faisait, comme Véronique vient d'en parler, une analyse globale. Et maintenant, pour certaines analyses plus spécifiques, ça peut être intéressant, mais l'interprétation a évolué en fonction des connaissances scientifiques que nous avons.
Voilà. Ok, donc pas de questions pour ça. Après, s'il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les poser après. Alors, un petit mot sur la maladie cœliaque. Alors d'abord, juste préciser que les analyses pour la maladie cœliaque se font avec consommation de gluten, évidemment. Hein, si vous avez un patient qui est déjà exclu du gluten depuis longtemps, les bilans sont évidemment moins parlants. Ça, c'est un premier préambule. Deuxième préambule, c'est que c'est une maladie qui est, en tout cas, je ne vais pas dire une maladie grave, parce que la solution, elle est très simple, mais qui une maladie qui peut avoir des conséquences graves. Hein, on sait que quelqu'un qui a une maladie cœliaque qui consomment du gluten, il y a des personnes qui sont asymptomatiques assez étonnamment. Et donc, en général, c'est le rôle du médecin de diagnostiquer une maladie cœliaque. D'accord ? Donc, vous avez évidemment le droit de le faire, éventuellement, pour vous faire votre avis, mais normalement, c'est à un médecin à... Donc, personnellement, si j'ai une suspicion de maladie cœliaque, j'envoie chez le médecin. Moi, personnellement, je ne fais pas faire les analyses, mais il y a certainement des médecins parmi vous qui, donc, du coup, pouvez faire ce genre de choses. Mais en tant que non-médecin, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut, pour lequel il faut passer par le médecin. Alors aujourd'hui, je vous ai joint d'ailleurs cet article-là que je vous mettrai dans les éléments que vous recevrez. Aujourd'hui, ce qui est validé donc, en termes d'analyse, je l'ai mis parce que je trouvais intéressant le début. Répondre aux questions souvent posées par les généralistes et aux difficultés auxquelles ils font face lorsqu'ils prescrivent des tests sérologiques pour la maladie cœliaque. Donc, vous avez compris que même les médecins ont parfois des difficultés à savoir quels sont les tests validés, quels sont les tests intéressants et importants à utiliser. Donc, c'est pas toujours évident, et bien sûr pour nous non plus. Donc, aujourd'hui, l'objectif, donc les anticorps qui sont les plus sensibles et les plus utiles, ce sont les anticorps IgA anti-transglutaminase au niveau tissulaire. Hein, donc les anciens IgA, endomysium, etc., on ne le fait plus vraiment, hein, vous pouvez le faire, ça existe encore, mais ils sont un petit peu moins efficaces et sensibles. Aujourd'hui, ce qui est validé, ce sont ceux-là, anti-transglutaminase tissulaire.
Alors globalement, il est conseillé de demander aussi donc, les IGA au niveau total parce que ça permet d'éviter certains faux négatifs. Hein, donc ça limite un petit peu ce risque-là. Et en fait, avant, on demandait les anticorps anti-endomysium, mais en fait, leur cible à eux, c'était vraiment la transglutaminase tissulaire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on conseille, on propose plutôt celle-là. Donc dans le document que vous aurez, bah, vous avez les pourcentages de spécificité et vous comprenez du coup bah, pourquoi. Donc ça va ici quand même, bon, en termes de sensibilité et en termes de spécificité, ce sont vraiment ces anticorps-là qui sont les plus intéressants. Et donc voilà, pour rappel, ça se fait évidemment chez un patient qui consomme bien sûr du gluten. Vous pouvez aussi, je ne l'ai pas mis là, mais on en parlait dans l'article, j'aurais dû d'ailleurs le remettre, c'est quand même très intéressant et important d'en dire un mot, demander les HLA DQ2, DQ8, puisqu'on sait aujourd'hui que donc 100% des personnes atteintes de maladies cœliaques présentent un de ces deux gènes. Ils peuvent aussi être demandés, c'est beaucoup moins précis, mais ça peut nous intéresser. Globalement, si vous n'avez pas de troubles digestifs, nous sommes à peu près 20% à porter ce gène HLA DQ2, DQ8. Si vous souffrez d'hypersensibilité non cœliaque au gluten, là, on monte à 50% et on passe à pratiquement 100% donc, chez les personnes qui ont une maladie cœliaque. Donc, on voit quand même l'intérêt de doser ces deux marqueurs-là, HLA DQ2, DQ8. On sait qu'il y a des croisements aussi avec la candidose, mais c'est encore très, très flou pour l'instant. Mais donc voilà, ça c'est des marqueurs qui peuvent être intéressants, notamment aussi chez certains sportifs parfois qui ont des troubles intestinaux récurrents, ce qui n'est pas anormal, hein, s'ils font de la course à pied, de l'endurance, etc. Mais ça peut aussi s'avérer être intéressant. Alors, grand débat, ça c'est vraiment loin qu'on puisse dire, sur les intolérances alimentaires. Est-ce qu'il faut faire les IgG? Est-ce qu'il ne faut pas faire les IgG? Donc, voilà, je ne me sens pas suffisamment compétente, parce que même entre médecins, personne ne détient la vérité. Moi, je connais des grands allergologues, même hospitaliers, qui utilisent les IgG et qui y croient. Et puis, vous avez à côté de ça tous ceux qui disent c'est n'importe quoi, c'est de la connerie, c'est bon. Donc, la vérité. Mon expérience, c'est que vous pouvez avoir. Si vous avez fait 10 ou 15 IgG, qu'il y en a un qui est positif, je pense que c'est quand même vachement intéressant de se dire, tiens, cet aliment-là, et si on l'éliminait? Parce que ce n'est pas hyper contraignant d'éliminer un aliment. Par contre, si vous avez plusieurs IgG, et c'est assez fréquemment le cas, qui sont présents, ça marque, ça signe évidemment bien plus une hyperperméabilité intestinale que vraiment une véritable intolérance. Important aussi, donc il y a plusieurs techniques de dosage, je pense que, je ne sais pas où je les ai mis, avec lui ici. Vous avez plusieurs techniques hein, dans les demandes. Vous avez la technique par chémiluminescence ou ELISA. Et en fait, la plus fiable, c'est par chémiluminescence parce que c'est plus spécifique, plus reproductible. Donc, je vous invite vraiment à choisir ça. C'est-à-dire que c'est les IgG que vous pouvez cocher vous-même. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, oh, on fait un pack, voyons. Ça a peu d'intérêt de demander des packs d'IgG parce qu'il faut vraiment demander les IgG des aliments qui sont consommés. Quelqu'un qui déteste les fraises, ça ne sert à rien d'aller lui faire des IgG à la fraise, quoi. Que vous perdez de l'argent, perdez votre temps. Enfin, donc, en général, il faut vraiment, c'est beaucoup plus utile et efficace de cibler les IgG demandés sur les aliments qui sont très consommés. Okay, et donc là, on rentre dans des analyses qui sont plus intéressantes. Okay, donc, par ELISA, c'est vraiment des lots. Apparemment, ça manque un petit peu de pureté et de précision. Donc, c'est pas très intéressant à mettre en place. J'ai aucune idée jusqu'à quelle heure j'ai la parole. Encore 15 minutes. Encore 15. Oui, quand même. On va passer en 78 tours, alors. Donc, ça c'est pour les anciennes générations. Alors, donc, les messages par rapport au métabolome. Donc, il nous renseigne sur la fonctionnalité du microbiote. Ils permettent vraiment d'explorer donc les troubles fonctionnels intestinaux de façon générale et globale. Ils permettent, comme je l'ai dit, vraiment de mettre en avant une bonne ou pas variabilité du microbiote. Alors après, dans un second temps, il ne faut pas oublier hein, quand même que il y a beaucoup de maladies qui sont liées, bien entendu, à des dysfonctionnements intestinaux sans qu'il y ait nécessairement de symptômes intestinaux. Okay. Ou en tout cas des symptômes qui peuvent paraître parfois légers, secondaires ou accessoires pour nos patients. Quelqu'un qui est constipé depuis 15 ans, c'est un petit peu habitué à ça. Même quelqu'un qui a la diarrhée, vous avez tous, je pense, eu des patients qui disent de toute façon, la diarrhée, ça fait 5 ans que j'ai la diarrhée ou ça fait 10 ans que j'ai la diarrhée et pour eux, c'est tout à fait normal. Donc, on a des pathologies qu'on peut aussi corréler à ces troubles intestinaux et donc des choses plus systémiques, hein, notamment des maladies neurodégénératives ou tout ce que vous voulez. Donc, ça, c'est. Ou cardiovasculaire, où on sait très bien que le microbiote est au centre de. Donc, le métabolome, c'est dans les selles. Les métabolites organiques urinaires, comme leur nom l'indique, c'est dans les urines. Et donc, après. À vous de voir quel type de prébiotique vous allez donner. Quelqu'un qui fait de l'hyperfermentation, vous n'allez pas lui lancer un sachet de 10 grammes de prébiotiques. Hein. Quelqu'un qui a des diverticules en phase douloureuse, vous n'allez pas non plus lancer des prébiotiques. Donc tout ça, c'est évidemment à vous de faire ça en fonction de votre patient. Alors les IGA donc, nous permettent de nous renseigner vraiment sur la fonction mucus, de mettre en avant des troubles de la tolérance intestinale, donc tout ce qui est fragilité infectieuse, etc. Donc là aussi dans les selles. Donc l'objectif, c'est de renforcer vraiment l'écosystème intestinal. Et vous savez, on a plein de choses en phyto, et par rapport au mode de vie, bien sûr, puisque tout ce qui est mucus est aussi fortement corrélé bah, au stress, à l'activité physique, etc. La LBP et la zonuline, donc ça c'est vraiment pour la fonction barrière qui sont très intéressants, tout ce qui est hyperperméabilité et endotoxémie, donc ça permet vraiment d'explorer des marqueurs dans des pathologies très complexes, par contre ça nous fait dans le sang, et voilà, la prise en charge, vous le savez, ça va être évidemment pour la barrière, la glutamine, et puis après, prébiotiques, butyrate qu'on va booster, etc. Bêta-défensine, donc réaction inflammatoire, calprotectine, lésion inflammatoire. Donc là aussi, prise de sang, recueil de sel en fonction des analyses. Et on va évidemment mettre en place des stratégies anti-inflammatoires que vous connaissez très bien. Voilà, donc ça c'était vraiment pour tout ce qui est santé digestive. C'est pas exhaustif, bien entendu, mais ça c'est vraiment les analyses courantes aujourd'hui que l'on peut proposer. Alors le statut en acide gras, donc je vais en dire un mot. Je ne sais pas évidemment si vous avez beaucoup l'expérience ou pas, peut-être certains oui, certains non, donc il faut toujours essayer d'en dire suffisamment pour ceux qui connaissent moins et pardon pour ceux qui le connaissent déjà très très bien depuis longtemps. Moi ça me paraît être vraiment un des bilans de base qu'on devrait proposer à tous les patients. Je ne vois pas un cas, même quelqu'un qui pète la forme et qui veut me dire « je viens juste faire un bilan pour savoir si tout va bien », je lui fais un profil en acide gras parce que le patient qui pète la forme et qui vient me voir pour ça, c'est sûrement un patient un petit peu pointilleux, qui fait les choses peut-être de façon un peu extrême et qui va se mettre à manger des graines de toutes sortes et qui est peut-être complètement déséquilibré entre ses oméga 6 et ses oméga 3 dans un sens ou dans l'autre. Vous savez qu'il y a parfois des extrémistes. Donc voilà, profil en acide gras, très important, c'est dans le sang. Donc évidemment, ça nécessite une demande de médecin, une prescription. Pour revenir sur ce qui avait été dit tout à l'heure, par Elian, c'est vrai qu'il y a des bilans que nous pouvons prescrire et pour lesquels il est plus intéressant de passer par un médecin par rapport au remboursement. Maintenant, il y en a quand même pas mal où il n'y a pas du tout de remboursement, hein, notamment tout ce qui est salivaire, cortisol, etc. Mais allez-y, hein, même ce qui est urinaire, il y a quand même aussi beaucoup, tous ces métabolites, etc. C'est de toute façon pas remboursé. Donc finalement, à part les neurotransmetteurs, j'en connais pas tellement qui sont remboursés en passant par un médecin. Donc finalement, j'ai presque envie d'inverser le... c'est dire, allez-y, hein, tout ce qui n'est pas sanguin, vous avez le droit de le faire, juste attention, les neurotransmetteurs, c'est bête, parce que c'est gratuit, à part la noradrénaline, qui coûte moins de 10 euros. Donc vous avez tous les neurotransmetteurs pour moins de 10 euros si vous passez par un médecin, et si vous le faites vous-même, je crois que c'est une trentaine d'euros par neurotransmetteur, donc... Voilà, c'est pas fun quoi pour le patient s'il doit payer 100 euros alors qu'il aurait pu l'éviter. Donc voilà, on revient à notre statut en acide gras. Donc il existait, je ne sais même pas si ça existe encore, on pouvait faire le bilan au niveau simplement sanguin, au niveau plasmatique, donc c'était le reflet de ce que vous veniez de manger, autant dire aucun intérêt. Et vous avez évidemment le profil en acide gras au niveau des érythrocytes, c'est le seul qu'il est intéressant de faire et qui est donc le reflet de l'alimentation des trois derniers mois. Donc voilà, on ne peut pas tricher. Hein. Il y en a qui essayent hein, parfois. Hein, vous savez, la glycémie, ils ne mangent pas pendant 2 jours avant la prise de sang. Et ça n'a aucun intérêt. Ben là, ça ne va pas marcher hein, de toute façon puisque c'est le reflet des 3 derniers mois. Donc, profil en acide gras qui peut être lu évidemment à plusieurs niveaux. On connaît aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans ces débats, l'importance de l'équilibre en acide gras dans votre alimentation, et ça va vraiment pouvoir vous orienter d'abord vers un conseil nutritionnel et puis éventuellement un conseil d'une complémentation. Donc ça se fait, je l'ai dit, dans les membranes des globules rouges, et le profil en acide gras, il se présente comme ça. Donc, petit rappel, vous avez les cadres ici, donc ça c'est le minimum à avoir, le maximum à ne pas dépasser, la ligne noire c'est la situation du patient. Okay, donc on voit déjà visuellement, vous pouvez la voir aussi en chiffres, c'est nettement moins facile évidemment, hein, parce que vous devez commencer à regarder, est-ce que ça c'est compris visuellement, vous ne voyez pas très bien où se trouve votre patient, donc je vous invite à appeler Super Ludo qui n'est plus là, pour demander éventuellement les graphiques si vous en avez besoin, puisque vous savez que c'est le médecin, uniquement le médecin prescripteur qui reçoit les graphiques. D'accord ? Donc même si vous avez mis votre nom, envoyez les résultats, hein, c'est ce que je vous conseille de faire, hein, copie docteur, si vous n'êtes pas docteur, vous barrez docteur, mais vous mettez votre nom, et comme ça, vous êtes encodé dans le système et vous avez droit à avoir une copie. Malheureusement, vous n'allez pas automatiquement recevoir les graphiques. Donc ça, il faut les demander. Mais demandez-les parce que pour vous et pour le patient, c'est beaucoup plus sympa à lire et beaucoup plus facile. Donc, vous avez la situation du patient. Vous avez par famille d'acides gras une couleur, les graisses saturées, les graisses monoinsaturées, les acides gras trans, les oméga 6, les oméga 3, l'index oméga 3 et puis les ratios. Hein, on va les voir. Donc, on a une lecture assez rapide que l'on peut faire. En dessous, vous avez les acides gras, hein, myristiques, pavioliques, acétéarique, etc. Donc jusqu'au bout, vous recevez bien entendu les noms entiers des acides gras si vous le souhaitez. Et ça vous permet de voir quoi ? Alors, ça vous permet d'avoir une lecture vraiment sur plusieurs niveaux. Déjà, une lecture très basique. La première lecture, c'est est-ce que mon patient est dans les normes ? Est-ce qu'il est trop bas ? Est-ce qu'il est trop haut ? D'où vient cet acide myristique et comment je peux faire pour le corriger? Bon. Après, ça devient un tout petit peu plus, pas compliqué parce que ce n'est pas compliqué, mais ça demande un petit peu plus d'expérience. Bien sûr, l'acide myristique, on peut le consommer, à vous d'avoir éventuellement, et on vous les donne quand ça pose problème, les listes des aliments riches en acide myristique, mais vous le savez qu'on peut fabriquer aussi nos acides gras, à part évidemment ceux qui sont essentiels. Donc l'acide myristique, si vous faites plein de sucre, vous allez en fabriquer beaucoup. Donc là, à voir avec vos patients, est-ce que c'est un consommateur de sucre, est-ce que c'est un consommateur d'alcool, est-ce que c'est un consommateur de viande, grasse, etc. Donc ça vous permet, voilà. Il est important aussi que vous sachiez quand même que, par exemple, dans les acides gras saturés, c'est surtout les deux premiers qui posent problème en termes de santé, que l'acide stéarique, il est plutôt neutre. Donc ne vous dites pas, oh, quelle horreur, l'acide stéarique, il a explosé. Donc on ne doit pas toujours prendre tout au pied de la lettre non plus. Donc ça, c'est pour les graisses saturées. Après, vous avez les monoinsaturés, avec le plus important, c'est l'acide oléique. Le deuxième niveau de lecture qui vient un petit peu avec l'expérience, c'est de comprendre qu'on fabrique notre acide oléique à partir de l'acide stéarique. Donc, ce qui est intéressant, c'est à un moment donné, même si au début, c'est un peu plus compliqué pour vous, c'est peut-être d'avoir d'abord juste un premier niveau de lecture, qu'est-ce qui est bas, qu'est-ce qui est haut, et d'où ça vient. Mais après, c'est de comprendre que, voilà, en fait, ce sont évidemment des chaînes, hein, vous savez, c'est 12, c'est 14, c'est 16, c'est 18, etc. Donc, avec des élongases, on fabrique nos acides gras, avec des désaturases, on ajoute des doubles liaisons. Okay, donc, une fois qu'on a compris ça, et qu'on en a un qui est très haut, c'est pas le cas ici, et un autre qui est très bas, on se dit, tiens, ça n'a pas bien fonctionné, quel est le problème? Et là, on est parti, vous connaissez la delta 6 verrier désaturase, et il y a des delta 9 désaturases, notamment ici, c'est une delta 9 désaturase qui transforme ça. Donc, en fait, on a une mine d'informations, et donc voilà, on n'a pas 3 heures pour en parler, mais c'est vraiment un bilan que je trouve très intéressant. Après, vous avez les acides gras trans. Il ne vous a pas échappé que ici, ces deux-là sont mis tout en bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de minimum à avoir. Le but, c'est vraiment d'être le plus bas possible. Il n'y a pas de valeur santé. Transvaccinique, très présent notamment dans les produits laitiers, mais les produits transformés industriels également. Et puis, vous avez le transélaïdique qui, lui, est surtout le reflet des cuissons à haute température. Donc, ça vous permet de dire aux patients, les fritures, les croquettes, les frites, les choses grillées, les graisses cuites, vous en mangez peut-être un petit peu trop. OK? Donc ça aussi, très intéressant. Le transélaïdique, c'est la forme trans de l'acide oïque. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très très sympa à voir. C'est si vous avez un stéarique qui est normal, un oléique très bas et un transélaïdique élevé, ça c'est typiquement quelqu'un qui chauffe trop son huile d'olive. Donc vous dites, oula, vous cuisinez à l'huile d'olive et vous la faites chauffer, vous la faites fumer. Donc on a vraiment des informations très intéressantes dont on peut en tirer. Alors tout ce qui est ruménique, CLA, donc l'acide linoléique conjugué, etc., ça c'est reflet des produits laitiers. Et vous voyez, c'est pas mis en bas aujourd'hui. Ces acides gras-là sont considérés comme faisant partie d'une alimentation santé. Okay. Alors, oméga 6, donc vous avez bien sûr l'acide linoléique, le précurseur. GLA, DGLA, alors je ne sais pas qui c'est, mais ça c'est clairement un patient qui prend de l'huile de nabe ou bourrache, parce que je peux vous dire que GLA, DGLA aussi élevé naturellement, ça je n'ai jamais vu. Okay. Donc ça aussi, c'est quand même assez fréquent, GLA, DGLA là, et là c'est clair, c'est quelqu'un qui a la peau sèche, hein. Vous dites, oh, vous avez la peau sèche sur les jambes, ah, bah, oui, j'ai la peau très sèche, donc ça c'est intéressant, et vous savez que ce sont des anti-inflammatoires. L'acide arachidonique, très élevé, bon, ça c'est vraiment le pire des pires, ça c'est le patient qui mange des œufs en très grande quantité et sûrement pas de bonne qualité, surtout beaucoup de viande, peut-être la peau du poulet, enfin voilà, tout ce qui est donc riche en acide arachidonique. Il y a finalement très très peu de transformation de DGLA en acide arachidonique, donc la plupart du temps l'acide arachidonique il est exogène, il est rarement, jamais vu vraiment endogène. Vous avez ici les oméga 3, acide alpha-linolénique, OPA, DHA, donc à vous de voir directement que là, votre patient, il en manque sur toute la ligne. L'index oméga 3, c'est la somme dans les membranes en pourcentage ici, EPA, DHA. Donc ici, fatalement, ça ne peut pas être loin quand on voit un EPA et un DHA comme ça. Et puis la dernière partie, c'est rapport oméga 6 sur oméga 3 au niveau total, acide arachidonique sur EPA. Donc là, sortie graphique, hein, donc ça ne veut pas dire qu'il y a de l'inflammation, j'entends souvent dire ça, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'inflammation. Ça veut dire que le patient, il n'a pas les capacités à répondre à l'inflammation. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas d'inflammation, ça va encore plus ou moins, mais le jour où il y a de l'inflammation, ça va durer plus longtemps et il va rentrer beaucoup plus facilement en inflammation chronique. Donc ne dites pas à vos patients, oh là là, il y a de l'inflammation, vous pouvez avoir ça avec une CRP ultrasensible tout à fait normale. Okay, donc c'est juste qu'il n'a pas la réponse à apporter. Et puis voilà, vous avez le rapport linoléique sur GLA qui vous donne une idée de la qualité de la delta 6 des saturases. Bon, ce n'est pas mon analyse préférée parce que 0 sur 0, ça fait 0. 1 sur 1, ça fait 1. Donc ça veut dire qu'un rapport peut être bon alors que les données ne sont pas bonnes. Donc à prendre évidemment pas au pied de la lettre, on va dire ça comme ça. Donc, je vous ai dit, durée de vie moyenne 30 jours. Donc, on a vraiment, voilà, on a plusieurs niveaux de lecture possibles. Hop, je crois que je vous l'ai mis là, voilà. Intérêt donc nutritionnel, bien entendu, hein. C'est d'avoir vraiment une idée de ce que mange votre patient. On a un intérêt micronutritionnel puisqu'on a tout ce qui est oméga-3 et déficit en acides gras essentiels. Et puis on a un intérêt fonctionnel, bien entendu, puisqu'on peut voir la qualité des désaturages, on peut voir le reflet du métabolisme lipidique et éventuellement aussi la qualité donc, des enzymes qui transforment. Donc en gros, vous l'aurez compris, quelqu'un qui a un bon profil en acides gras, c'est pas nécessairement que tout est nickel, mais globalement, c'est des graisses saturées dans la norme, ou plutôt dans la norme basse, des monoinsaturés normales, et là, si vous avez l'expérience de l'utiliser, vous savez que l'acide oléique est très souvent très basse, hein, donc voilà, c'est très souvent le cas, j'ai observé. Les acides gras trans, bien entendu, les plus faibles possibles, mais les CLA jouent des rôles intéressants dans l'organisme, donc il faut qu'ils soient un petit peu présents. Et bien entendu, le critère de qualité, c'est d'avoir des oméga 6 et des oméga 3 équilibrés, ce qui n'est bien sûr pas du tout le cas ici pour le patient qui est présenté. Alors, les fast food, ben c'est l'inverse, hein, donc c'est trop de graisse saturée, en particulier l'acide palmitique. Alors celui qui n'est pas dosé, c'est dommage, je trouve, c'est le laurique, hein, parce qu'il y a plusieurs acides gras saturés qui posent problème aujourd'hui, c'est palmitique, myristique et laurique qui n'est pas dosé. Le stéarique a plutôt une fonctionnalité neutre sur l'organisme. Des monoinsaturés, pas bon, trans trop élevé, le pire du pire étant le trans et l'aïdique, c'est lui qui pose le plus de problèmes. Mais le premier aussi, puisqu'il marque bien sûr une alimentation industrielle. Les CLA, bon, ben ça va, il n'en faut pas trop, mais on peut en avoir. Et polyinsaturés, déséquilibrés avec un déficit en oméga 3. Indice oméga 3, on essaye de viser le 8%. Ne regardez pas toujours trop le graphique parce qu'en fait, il est assez ambitieux. Hein. Donc ici c'est 8%, là c'est 9, là c'est 10. Donc ne vous dites pas, ouais, c'est tout juste 8%, si vous avez un patient à 8%, vous êtes déjà content, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui spontanément vont être à 8%, et c'est un bel objectif, donc il n'est pas nécessaire, 8,5 c'est très bien, ça ne sert à rien de le bourrer en oméga 3 pour essayer qu'il monte jusqu'à 9 ou 10, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Okay. Donc on a vraiment plusieurs regards à avoir. Au niveau micronutritionnel aussi, c'est intéressant pour voir aussi combien d'oméga 3 vous allez donner, pendant combien de temps, etc. Et puis les ratios, je vous en ai parlé, des rapports donc, horizontaux, hein, acide gras chimique sur EPA, oméga 6, oméga 3, et puis verticaux, les désaturases, vous savez qu'un manque en zinc notamment, hein, donc ça va vraiment au-delà. Des acides gras, un manque de zinc, eh bien, fait dysfonctionner nos enzymes, les acides désaturases notamment. Voilà, donc ça c'était par rapport au profil en acides gras. Je ne sais pas si vous avez.
Non, je te propose de continuer, de prendre la demi-heure ici, et moi je commencerai après. Comme ça on ne change pas les PC et tout, c'est plus facile.
Tout va bien. Bah, je termine cette partie-là, et puis quand j'arrive à pause, j'arrête.
C'est comme tu veux.
Deux jours après. Non, mais je lâcherai pas.
Non, mais tu peux continuer jusque midi sans problème.
On est sous. Enfin, pas très finement. Donc, alors, on va parler de la B12. Alors, ça ne vous a pas échappé non plus que pendant des années, on a dosé la B12 et que maintenant, le laboratoire vous invite à plutôt doser la vitamine B12 active. C'est pas pour rien. Je vous ai mis, je pense, aussi dans la documentation, une étude. C'est vraiment prouvé, donc c'est B12 active. En fait, la B12, elle est utilisable que quand elle est liée à une protéine donc, de transport, et c'est ça qu'on va doser. Donc c'est ça qui est intéressant, parce que certaines personnes, chez certaines personnes, ça fonctionne bien. Donc, la B12, à quoi elle sert? Quand est-ce qu'on va la demander? Presque chez tout le monde, hein, tout ce qui est santé mentale, cognition, fibromyalgie, bien entendu, vous le savez, méthylé, hein, donc le fait d'apporter un CH3 nécessite la présence de folate et de B12 principalement. C'est intéressant pour tous les problèmes de fertilité, c'est intéressant chez les sportifs, notamment pour la méthylation, et donc tout ce qui est fonction musculaire, tout ce qui est refabrication rapide d'ATP, donc chez le sportif, c'est extrêmement important aussi d'évaluer la B12. Et donc on va vraiment préférer, alors vous avez la valeur optimale ici, mais on va vraiment préférer cette fameuse forme active de B12. Donc cette vitamine B12, on la forme donc sous forme de holotranscobalamine, et donc c'est vraiment plus fiable que la B12 totale, plus fiable, plus sensible. C'est aussi un marqueur plus précoce, hein. Vous savez que la B12, elle est dosée dans le foie, donc avant d'être vraiment en déficit, on épuise ses réserves en 3 ans en B12. Hein, donc quelqu'un qui vient de devenir, par exemple, végétarien, et qui fait un dosage après 6 mois, il dit, bah, tu vois, on peut avoir la B12. Ben non, hein, en fait, mais c'est juste qu'on voit encore son stock d'avant. D'accord ? Donc ça prend vraiment du temps avant de l'épuiser. Par contre, cette forme active, on va voir un déficit de façon bien plus précoce. Ok ? Je sais pas si elle est aussi scrite. Donc vous avez les valeurs de référence, et comme ça vous voyez pourquoi cette forme de B12 est plus intéressante. Alors l'homocystéine, un petit mot, donc on va pas évidemment refaire tout le cycle de la méthionine, hein, mais donc l'homocystéine s'élève en cas de mauvaise méthylation, d'accord ? Et donc quand on connaît les conséquences d'une mauvaise méthylation, je pense là aussi qu'on a tous et toutes intérêt à au moins une fois dans sa vie doser son homocystéine, et pareil pour nos patients bien entendu. C'est malheureusement pas remboursé, puisqu'on est pratico-pratique, donc c'est remboursé uniquement si vous avez moins de 55 ans et que vous avez des antécédents d'AVC ou de maladies cardiovasculaires. À ce moment-là, c'est remboursé, sinon c'est pas remboursé. Mais malgré tout, c'est vraiment utile, puisque cette méthylation, elle se passe des milliers de fois dans nos cellules, tout le temps, en permanence, et qu'elle joue des rôles absolument incroyables. L'objectif étant de ne pas dépasser 8, si c'est possible. Voilà, entre 8 et 10, il y a une petite zone d'ombre, parce que c'est vrai qu'il y a certains laboratoires qui propose même 12, j'ai déjà vu 14 qui étaient acceptés. Ça pour moi c'est vraiment beaucoup trop haut, hein. Au-dessus de 10 je pense qu'il faut agir, donc il y a beaucoup de variabilité. Et donc on connaît bien sûr l'intérêt de la méthylation chez la femme enceinte, mais déjà avant bien sûr, parce que avant déjà la procréation, la méthylation va avoir toute son importance chez la maman et chez le papa, qui évidemment lui est totalement mis sur le côté en général quand on fait des bilans préconceptionnels. Donc méthylation important pour éviter donc malformation du tumoral, spina bifida donc, les maladies cardiovasculaires, cause très fréquente d'AVC ou d'infarctus chez des personnes parfois jeunes, hein, 40-45 ans, qui génétiquement présentaient un trouble de la méthylation. Important pour tout ce qui est cognition, les personnes fatiguées, faiblesse musculaire, diabète, obésité, dépression, cancer, pathologie hépatique, et vous pouvez évidemment ajouter les sportifs également, parce que c'est aussi une catégorie de personnes chez qui il faudrait faire de façon systématique. Donc en gros, tout le monde. Donc moi je le fais systématiquement, je trouve ça trop dommage qu'un jour, vous le savez, génétiquement, quelqu'un qui n'a pas une méthyl tétrahydrolacte réductase qui fonctionne correctement va avoir une homocystéine qui s'élève. Ça ne se sent pas, ça ne se voit pas. Et c'est trop dommage qu'un jour se choper un cancer, un AVC, un truc, parce qu'on ne savait pas. Donc moi, je pense qu'il faut le faire une fois. Et voilà, ça, c'est important. Un autre bilan que je fais aussi personnellement de façon systématique, c'est les anticorps anti-LDL oxydé. Vous savez certainement que bien sûr le rôle néfaste du cholestérol trop élevé est remis en cause par pas mal de personnes, parfois de façon peut-être un peu exagérée, parce qu'évidemment il y a une corrélation, mais on sait, c'est surtout quand il est oxydé et donc petit et dense qu'il est capable de passer à travers les membranes et de poser problème. Donc ces LDL oxydés, c'est eux qui vont vraiment provoquer donc cette activation d'élastase, et donc faire baisser l'élastine, et donc fatalement la souplesse hein, de nos membranes. Ils sont pro-oxydants, ils ont une action cytotoxique, donc ils vont activer les plaquettes, faire de l'inflammation, épaissir nos parois. Ils vont diminuer donc par deux mécanismes, donc par l'élastine et par leur effet sur la neutralisation du NO, diminuer la vasodilatation. Et donc on va avoir formation d'auto-anticorps, une réaction auto-immune. Et donc aujourd'hui c'est clairement un facteur de risque cardiovasculaire notamment. Et donc c'est un excellent marqueur de l'oxydation. Donc même quand il n'y a pas de suspicion de maladie cardiovasculaire, c'est un marqueur intéressant. Je peux vous montrer, évidemment, les premiers concernés par l'oxydation élevée, ce sont les sportifs. Et j'ai le bilan de sportifs de haut niveau qui ont des LDL, des anticorps anti-LDL oxydés qui dépassent les 1200. Hein. Il y a un maximum dans le dosage, si vous avez l'habitude de l'utiliser, au-delà d'un certain taux, ils ne peuvent même plus le doser. Et donc, qui ont des valeurs mais explosées fatalement, puisqu'ils sont plus exposés à ces espèces réactives de l'oxygène. Donc, vraiment très, très intéressant. Et dans la littérature, je vous ai mis aussi... cette étude, voilà, ce sont des choses qui sont publiées en février 2019, donc l'inflammation, l'oxydation des lipides, notamment dans les maladies cardiovasculaires. On est là bien dans la prévention et je pense que c'est votre place en tant que nutrithérapeute de parler de prévention et de faire de la prévention. Deuxième marqueur de stress oxydant, mais déjà dans un état plus avancé, la 8-OHDG, donc ça se fait au niveau urinaire. Donc, une des bases, donc la guanine va muter. C'est un reflet de l'oxydation donc de notre ADN. Et puis, cette mutation va faire l'objet d'une réparation pendant la nuit, hein, pendant notre sommeil lent. Eh bien, cette guanine va être... il y a une 8-OHDG qui va être éliminée, remplacée par une nouvelle guanine. Donc, il va y avoir un système de réparation qui se met en place pendant la nuit. Et donc, c'est un bon marqueur, non pas d'oxydation finalement, mais de façon indirecte salée, mais de réparation. Okay, donc la 8-OHDG, c'est un marqueur de réparation de l'ADN. Donc si vous avez beaucoup réparé, alors tant que vous réparez beaucoup, tant mieux. Hein, donc ne criez pas demain vous avez un cancer non plus à votre patient, hein, parce que si elle est élevée, c'est qu'il a encore des capacités de réparation. Là aussi, apprendre avec subtilité, hein, vous avez des patients qui, c'est pas parce qu'elle est bonne qu'il n'y a pas un problème, parce que si leur capacités de réparation sont dépassées, ben la 8-OHDG, elle peut être normale également. Alors, au niveau de la fatigue surrénalienne, donc là, ce qui est important de dire, c'est tout ce qui tourne autour du cortisol, bien sûr. Alors, doser comme ça, pouf, le cortisol, ça libère à 8 heures, ça n'a pratiquement aucun intérêt. Hein, ce sont surtout des ratios qui vont nous intéresser. Donc le cortisol salivaire, on sait, est beaucoup plus précis que le cortisol sanguin, mais il n'est pas remboursé. Donc après, en fonction des patients, moi je fais l'un ou l'autre, en fonction du budget aussi. Mais quelqu'un, par exemple, qui a très très peur de la prise de sang, bah, il peut avoir, si ça fait déjà 30 minutes qu'il flippe avant qu'on le pique, qui se dit, on va piquer le bras, bah, c'est clair que ça fait monter son cortisol. Mais ça fait monter dans le sang, pas dans la salive. D'accord ? Donc c'est pour ça que c'est aussi plus... Ou s'il était hyper speedé, parce qu'après il a un rendez-vous et qu'il est en retard, qu'il est dans les embouteillages, il arrive à la prise de sang, hyper énervé parce qu'il y a 12 personnes devant lui, bah, c'est sûr que tout ça va impacter. Donc c'est pour ça qu'au niveau salivaire, c'est parfois plus intéressant. Donc un dosage non, deux, ça c'est nettement mieux déjà hein, en termes de diagnostic. Ça permet vraiment de voir l'évolution et les capacités de réponse par rapport à un stress. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de faire le fameux CAR, je vais vous en dire un mot, le cortisol immune réponse, le ratio cortisol DHEA et le ratio cortisol du matin et du soir, ce qui, avouons-le, est un peu moins pratique, évidemment, au niveau du quotidien de nos personnes. Donc, pourquoi un seul dosage n'est pas fiable? Parce qu'il y a beaucoup de variations d'une personne à l'autre, donc ça ne vous donne évidemment pas vraiment d'informations. Et il y a beaucoup trop de variations d'un moment de la journée à l'autre. Donc ce qui va nous intéresser, c'est vraiment ce fameux CAR. Ça, c'est vraiment très intéressant comme dosage. Donc on va rechercher en quoi il peut être perturbé. Donc c'est le premier marqueur vraiment d'un stress majeur mais chronique. Okay, alors que finalement, vous pouvez avoir quelqu'un qui est
relativement paisible, qui le jour de l'analyse s'est pris toutes les merdes qu'il pouvait prendre sur le moins et qui arrive hyper stressé, et donc évidemment ce ne sera pas, le reflet ici, c'est vraiment un reflet d'un stress chronique. Donc lorsqu'il est élevé, bah, on sait que la personne, elle est sous pression, mais elle peut encore répondre plus ou moins. Et quand ce quart est diminué, là, c'est vraiment la personne qui est en surmenage et qui parvient plus trop à compenser. Okay, donc c'est assez simple. Il y a beaucoup d'études hein, sur le quart, donc c'est des choses qui sont vraiment totalement validées. Donc, surmenage, je l'ai dit, prédictif d'épuisement professionnel, donc quand même intéressant pour faire la bonne prévention par rapport au burn-out, et bien sûr une stratégie adaptée. Donc un petit mot d'abord sur le cortisol. Donc il est transporté par la transcortine, et vous savez que nos hormones, elles sont efficaces sous forme libre, donc il est toujours très très important de demander, quand vous faites le cortisol sanguin, de demander aussi le dosage de la protéine de transport, parce que c'est ça qui vous permet de calculer le cortisol libre. D'accord ? Donc le cortisol libre, il ne se dose pas, il se calcule. Donc on dose le cortisol, on dose la transcortine et on calcule le cortisol libre. Et donc on a besoin évidemment de ces trois mesures. Okay ? Donc le cortisol libre, il est calculé, pas dosé, je l'ai dit, et donc c'est important d'avoir un bon ratio. Certaines personnes ont une transcortine très élevée, alors leur cortisol est bon, mais il y a plein de transcortine, donc ça va évidemment diminuer l'efficacité, la quantité de cortisol libre. Donc c'est un glucocorticoïde donc fabriqué par la CTH. Je vous laisse lire les rôles, mais on sait que c'est notamment un anti-inflammatoire, mais bien sûr le cortisol est très important. Il y a des variations dans la journée, c'est pour ça que vous allez retrouver dosage 8h, dosage 17h, dosage 20h. Je ne suis pas rentrée évidemment dans les détails, mais vous savez qu'on a un pic de cortisol le matin et que si vous êtes en bonne santé, donc vous avez ce pic et puis progressivement vous avez le cortisol qui descend. Quelqu'un qui va être en stress chronique, mais qui supporte encore plus ou moins, vous allez avoir un pic le matin, mais en fait, ce n'est pas un pic parce que ça va rester toute la journée élevé. Vous avez les personnes qui sont complètement dans les choux le matin et qui, à force de 12 cafés, parviennent gentiment à remonter, et donc ça part en bas et ça remonte en fin de journée. Vous savez, on est crevé, puis deuxième vie le soir, on se dit « Waouh, mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Donc, je vois que ça parle à quelqu'un. Et puis vous avez chez qui ces lignes plates tout le temps, donc ça c'est évidemment pas bon signe. Donc on a vraiment des variations et c'est intéressant pour ça d'avoir ces différents points de mesure. Ça vous permet vraiment de voir l'évolution ou le niveau de fatigue de nos patients. Donc on a des dosages sanguins, urinaires, salivaires qui sont possibles et on va regarder ça ensemble. Donc juste bien penser que pilule, grossesse, obésité, stress, hyperthyroïdie, tout ça, ça peut potentiellement faire monter le cortisol. Qu'en excès, il y a des risques pour la santé, hein, donc c'est évidemment important de le savoir, vous lirez tout ça, mais trop peu, bien sûr, c'est pas bon non plus, hein, puisque ça, le cortisol joue des rôles, notamment, on l'a dit, anti-inflammatoire, hein, vous avez vu les rôles ici, anti-inflammatoire, la pression artérielle. Quelqu'un qui fait du sport et qui a vite des vertiges, etc., ben, potentiellement, c'est quelqu'un qui ne peut pas refabriquer suffisamment rapidement du cortisol. Donc, c'est tous des signes qui doivent quand même nous interpeller. Donc, vous avez les valeurs ici du cortisol total, donc c'est le niveau sanguin ici. Cortisol total, transcortine, cortisol libre. Si vous aimez et que vous faites des urines de 24 heures, vous pouvez doser 17-OH stéroïdes. C'est le métabolite du cortisol, très intéressant aussi, pour voir ce que vous avez véritablement utilisé, parce qu'on peut fabriquer du cortisol et avoir des récepteurs oxydés ou abîmés. Okay, donc c'est encore un niveau d'analyse au-dessus. Donc quand vous avez un cortisol libre au niveau des urines qui est bas avec un 17-OH stéroïde bas, clairement, ça signe une fatigue des glandes surrénales. Alors, si le 17-OH est bas, ben fatalement il est bas, donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez de cortisol libre, mais ça peut aussi être un problème de récepteur ou d'oxydation. Okay, donc on peut avoir un cortisol libre qui est tout à fait normal et des 17-OH stéroïdes trop bas, et donc là on sait qu'il y a un problème d'utilisation de ce cortisol. Donc c'est intéressant, si vous voulez faire vraiment un bilan complet des surrénales, de le demander. Et puis aujourd'hui, ce qui est beaucoup et de plus en plus utilisé, c'est ce fameux quart,
Donc en fait, comme je l'ai dit, on a un pic de cortisol le matin, mais après ce pic du matin, on a encore une petite poussée de cortisol dans les 30 minutes après le lever. Hein, donc entre le lever et 30 minutes après, on a une élévation du cortisol qui peut être quand même relativement importante. Et donc on va faire deux mesures de cortisol salivaire, très rapides, l'une derrière l'autre. Et on va pouvoir mesurer ce fameux CAR et voir s'il est physiologique ou pas physiologique. Okay, donc ça, c'est si vous aimez chercher des études sur PubMed, il y en a vraiment un paquet. Donc ce fameux CAR, en fait, il sert à, voilà, dès qu'on se lève, tac, à nous donner un petit boost d'énergie. Et donc on a intérêt à ce qu'il soit important parce qu'il va être, pas trop bien sûr, mais vraiment le reflet de notre capacité à répondre au stress. C'est aussi un reflet de la santé affective, tout ce qui est lié évidemment au stress. Donc dans la littérature, il y a plusieurs protocoles qui sont proposés. Chez SYNLAB, le protocole le plus complet, c'est vraiment mesure au réveil, mesure 30 minutes après. On peut le faire un jour, mais le top, c'est faire deux jours consécutifs. Donc ça permet vraiment d'évaluer la santé de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Le CAR peut être augmenté en cas de stress ponctuel ou chronique, mais avec des glandes surrénales qui ont cette capacité de répondre. Ça arrive évidemment à tous, des périodes un peu plus compliquées. Quand il est diminué, eh bien, il y a épuisement des glandes surrénales avec risque fatalement de fatigue, de burn-out. Il peut être perturbé aussi chez les travailleurs de nuit, souvent d'ailleurs, vous le savez, c'est d'ailleurs un vrai problème de santé. Aussi pendant les règles, à noter. Et alors, ce qui était très très amusant, je l'ai dit parce que c'est toujours très drôle, des études qui essaient de voir s'il y a des différences hommes-femmes. Alors il y en a qui en trouvent en disant « ouais, les femmes, la charge mentale des femmes, c'est très à la mode ». Et puis après, il y en a qui disent « non, il n'y a pas de différence sauf la semaine, entre la semaine et le week-end ». Donc on voit que c'est quand même assez précis finalement, et qu'il y a des différences hommes-femmes le week-end. Il semblerait que les femmes soient plus actives le week-end. Mais on ne rentrera pas dans ces débats. Donc voilà, d'un point de vue graphique, ça ressemble à ça. Donc c'est très facile d'interprétation. Vous avez au réveil, 30 minutes après, et le fameux CAR qui, évidemment, ici, est très mauvais, comme vous pourrez l'observer. Donc vous avez chaque fois, évidemment, les graphiques et les interprétations qui les accompagnent. Et c'est là.
Oui. Je me permets de dire encore un petit mot par rapport au CAR. Pour être tout à fait complet, si on veut vraiment une analyse complète, on peut encore faire la même prise de salive à 20h le soir, justement pour avoir une vue globale sur la journée. Petite précision aussi qui est toujours intéressante à dire à son patient, on veut de la salive. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'une expectoration. C'est pas ça qu'on analyse, c'est la salive. Donc voilà, c'est juste petite analyse, mais la petite précision, mais qui est toujours bonne à donner à son patient.